Balado Diffusion est une production de Delta Media.
Yes, sir! Salut tout le monde! Salut. Salut François!
Salut Denis!
Bienvenue à cette émission spéciale Top 10 décennies 80!
Oui!
Dans le cadre du concours...
Retour vers le passé!
Alors on est content. Là c'est...
C'est l'émission.
Ouais, c'est
C'est le milieu là, c'est la décennie du milieu.
Mais c'est la plus belle émission selon moi. Là. Elle que j'ai attendue longtemps. Là.
Oui.
Elle qui vient chercher nos souvenirs.
Absolument.
Nos tripes. Ah, ça va être le fun.
Il y a tellement de stock dans les années 80 que...
Ben c'est notre génération. Personnellement, c'est... moi je suis la génération X.
Ouais.
J'ai 35 ans. Les années 80, j'ai absorbé du cinéma. J'ai mangé du cinéma. Là. Je découvrais le cinéma. Puis, c'est dur faire un top. C'est dur. Vraiment dur.
Alors, il est pour nous la pause. Et, ben, pour nous la pub, plutôt. Et après la pause, on est parti en 80.
Youhou!
Vous aimez le cinéma? Vous êtes nostalgique? Alors, Cinémascope vous propose de reculer dans le temps en participant au nouveau concours
Retour vers le passé.
Pour participer, vous devez nous faire parvenir par courriel une liste de vos 10 films préférés, soit de la décennie 1990, 1980 ou 1970. Vous pouvez nous fournir les 3 listes, mais une seule suffit pour être éligible au concours. À gagner, un film de votre choix parmi vos listes que vous aurez fournies, plus la trilogie Back to the Future en DVD. Gracieuseté du club vidéo Cinécure, 840 Mirand, Québec. Et pour couronner le tout, une magnifique réplique de la DeLorean à l'échelle 1/15e avec effet de son et lumière. Gracieuseté de la boutique Cinéma Passion, 51 boulevard René-Lévesque Est, Québec. Le tirage au sort aura lieu durant la 100e émission de Cinémascope en balado-diffusion. Mise en ligne le 5 mai 2010. Pour tous les détails, consultez cinemascope.delta.net. Bonne chance à tous et à toutes!
Hey hey!
Oh yeah, santé! Santé!
Aux années 80.
Oui, les plus belles années. Non, ben c'est pas vrai, mais en tout cas, on a eu des bons moments dans les années 80.
Alors, on va commencer par mon top, tout simplement parce que en 90, c'était tout là.
Moi, c'est ça.
Okay. Et que sinon, ben, si c'est toujours moi qui passe en deuxième, peut-être que t'as des films dans ma liste, puis que je reste...
Bouche bée.
Je reste... en tout cas,
sans voix.
Alors, ben moi, j'y vais en ordre décroissant. Puis, il n'y a pas d'ordre d'opposition.
Là. OK, ouais. Qu'est-ce que tu entends, Bob?
Ben, exemple, je vais commencer en 89. Et je vais descendre.
Ah, OK, OK. Chronologique.
Ouais.
Mais en ordre de déchronologique.
Exact. Alors.
Retour vers le passé.
Alors, à ton dire alors. Mon premier qui...
Là, je vois rien. Il a pas voulu me montrer sa liste. Je découvre en même temps que vous.
Roulement de tambour. C'est parti.
Il va tranquillement.
Batman 1989 de Tim Burton. C'était quelque chose.
OK.
La première fois que Batman a du sens avec du vrai monde.
Ben, je veux dire, c'est ça, si on fait référence à la série animée avec Adam West. Télésérie, je veux dire. Ouais.
Là, les années 60, ouais.
C'est quand tu montes sur un building, là, puis que ça a pas l'air crédible avec la capte raide, là. Les pif-paf, bing-bang. Quoi que ça avait son charme.
Ça avait son... Écoute...
Ben, c'est Batman avec une badaine, là, c'est pas winner.
Non. Mais tu sais, ça a quand même duré très longtemps, cette série. Ils ont remonté, ils ont remonté.
Ouais.
Les années 80, ça jouait l'été, puis bon.
Mais ça bouge des trous, tu sais.
J'ai été un enfant, moi, ici, puis bon, dans ce temps-là, c'était ça. C'était ça qui était hot.
Mais là... Ben, moi, dans ton cas, je sais pas si c'est le même, j'ai découvert Tim Burton à cause de ça, moi. Je connaissais Édouard Rubin d'Argent,
ouais.
Mais j'ai pas accroché parce que c'était plus un film de filles.
OK.
Ben oui, c'est un film d'amour.
En tout cas, je m'en rappelle pas si j'ai vu Batman avant.
Mais moi j'ai vu Édouard avant, Puis Batman, là, j'ai vraiment... Ça fait « Oh, wow! » C'est ça, c'est un univers noir, c'est le fun.
Ouais, parce que Frank Miller avait redonné le style du Chevalier Noir dans ses BD, mais
ouais, c'était dans les avant. Oui, ça c'est avant, c'est les années... En 85-86, dans ce secteur-là, que Frank Miller s'est mis sur The Dark Knight.
Exact.
Et Year One.
Ouais.
Puis... Mais toi, Batman, là, dans ton cas...
Ben, moi, j'ai capoté. C'était quelque chose. Bob Kane, l'auteur de Batman,
ouais,
était présent au lancement. Puis, il pleurait, pas compliqué.
Il était heureux, oui. Oui, je me rappelle.
Malgré l'univers de Tim Burton, qui est toujours un petit peu magique, son nom, qui n'est pas réel, réel, ben, ça va l'air vrai pareil. T'sais, la Batmobile est quelque chose.
Là. Ah oui, on s'en souvient de la Batmobile encore. Hein?
Même Kim Basinger, quand il était sur le plateau à Fat Crime... On est vraiment là, là, c'est vrai. Là.
Puis le Joker,
il a fait... Oui, Jack.
Jack. Jack Demen, même si il a été supplanté par Heath Ledger, il faut donner à César ce qui lui revient. C'est quand même le Joker qu'on s'est souvenu longtemps avant que The Dark Knight de Christopher Nolan sorte.
Ouais. Anecdote, Kim Basinger est allé dans un hôpital avec des jeunes malades, un petit peu après la sortie du film. Mais les jeunes, eux autres, là, c'est Vicky Vell qui avait devant eux. Il l'appelait Vicky. Puis Batman, il est où? Ben, il est dans Batmobile, dans le stationnement, il m'attend.
Fait que ça, c'est ton... C'est pas ton numéro 10, là.
Non, non.
C'est un qui t'a marqué.
Ouais. Next! Die Hard, 1988, de John
McTiernan.
Alors, évidemment, ils sont allés chercher Bruce Willis, qui jouait dans une série, il me semble. Oui, c'est le succès, là, une
Moonlight,
comédie.
Moonlight, quelque chose, Moonlight, là. Avec Kim Basinger, justement.
Oh, on aime ça!
Hey.
Et, ben, ça a été un bon choix. John McClane est né. Et,
Ben, l'anti-héros est né.
Oui.
Parce que c'était un nobody. Il jouait vraiment le nobody. Et la bedaine, puis... ben, la bedaine. Pas nécessairement une grosse bedaine, mais tu sais... C'est ça. Le kidem, tu sais, le gars qui rentre à l'action, puis comprend pas ce qui se passe. Puis, voyons, faut que je me sorte de là, puis il est sale, il est crotté, il est blessé. Puis,
ouais.
Il est pas clean, là.
Donc, dans les quatre films, oui, c'est mon préféré. J'en profite pour dire qu'Eli, dans son top, lui, c'est Die Hard 2. Mais pas dans les années 80.
Les années 90, c'est ça. Okay. Ouais, mais c'est ça, Eli... qui est notre
producteur.
Lui, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de cinemascope.delta.net puis voir nos top 90 sont là. Là. Vous allez cliquer sur la page d'accueil, vous allez voir la belle... c'est quoi ça? La petite façade, la petite fenêtre que t'as faite, là, c'est cute au bout. Là.
C'est le circuit temporel de Retour vers le futur.
C'est ça.
pour le concept des trois tops.
Ah, c'est bon, j'ai trouvé ça weird.
Fait que Die Hard, Piège de cristal... qui est un classique. Hein?
Ben, classique d'action. Film d'action. C'est un classique. J'ai un poster dans mon bureau.
Oui. Ensuite, évidemment, l'incontournable qui fait le concept de notre concours, Back to the Future, 1985, de Robert Zemeckis.
Le numéro 1.
Oui.
2, il est sorti en 90. En 90, OK. Juste pour être sûr.
Ce qui est étonnant dans Retour vers le futur, c'est que la machine a voyagé dans le temps. Ça a failli être un frigo.
Un frigidaire?
Oui. Après, ils se sont dit, ouais, mais ce serait le fun de pouvoir transporter la machine, parce que si t'es mal pris, ben, faut que tu la traînes avec toi. Fait que là, ils sont allés plus vers un véhicule. Après ça, ils ont dit, bon, ça pourrait être un genre de tank, parce que tu sais pas où t'abouti, tu sais, les terrains, tout ça,
okay,
tu
ouais,
sois tout terrain. Finalement, je me rappelle pas qu'est-ce qui a fait que. Enligné vers une...
Toi, tu sais comment? C'est-tu grâce au bonus du coffret qu'on va vous offrir?
Tout à fait.
Oui. Ah, calme. D'ailleurs, je l'ai filmé chez nous et j'ai même pas regardé le bonus encore.
Et j'ai appris qu'à l'époque, c'était une blague qui avait une suite. Eux autres, ça finissait là. C'était pas question de faire deux suites.
Ah, ouais?
Ouais. Mais à cause du succès et de la demande, ben, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir.
Mais Zemeckis, pendant ce temps-là, lui a fait Roger Rabbit.
Aussi. Ben c'est ça. Ils ont pris le temps d'y réfléchir parce qu'ils ont dit si on fait une suite, faut que ça soit le fun, faut que ça soit haut. Faut que ça vaille de la peine. Mais bref, on va parler plus du 1.
Ouais. Bon,
c'est loin. Ben, à cause de J. Fox dans Back to the Future, il travaillait sa série Family Ties.
Oui, c'est vrai.
Fait qu'il n'y avait pas vraiment le temps. Fait qu'il tournait souvent de nuit.
C'est pour ça qu'on voit des images de nuit beaucoup aussi.
Puis, quelqu'un arrivait. Bon, là, je t'apprends à faire du skate. Puis quand il avait fini sa scène, il y avait un autre monsieur qui arrivait. Salut, moi, c'est, mettons, je sais pas, Robert. Puis là, je vais t'apprendre à faire une autre affaire. Puis il savait déjà jouer de la guitare, mais il a fallu qu'il apprenne à jouer Johnny B. Goode comme on l'a vu. Fait que, tu sais, non-stop. Toujours de quoi apprendre, pas apprendre. Puis il dit là, aujourd'hui, je me rappelle de rien. Parenthèse, on est en 2010. Ça fait 10 ans que sa fondation pour le Parkinson existe. Puis c'était cette année l'objectif pour trouver un remède ou quelque chose.
Puis?
Ben, je sais pas. En même temps, ça donne que Obama voudrait justement que les scientifiques puissent travailler dans ces
sujets. Ben, ça, je savais qu'il travaillait là-dessus puis qu'il cherchait un sérum ou un vaccin ou quelque chose pour aider. Mais j'en sais pas plus, comme je suis comme toi, je savais pas. Ben, tant qu'à parler de d'objectifs puis de top, de fête, là. Tu m'as appris tantôt à Ronde que ça fait une fête le 25e anniversaire de Back to the Future.
Cette année, oui.
Cette année. C'est involontaire là, qu'on a décidé de faire. Ben, je dirais involontaire. Qu'on fasse ça comme concept, Retour vers le futur, là. Ben, vers le passé. Puis qu'on choisit ce film-là 25 ans plus tard.
Wouhou! Next!
Ça, c'est ton film. C'est-tu ton film d'horreur, ça? Ou,
Non, pas lui. Non. Faudrait que je réfléchisse encore une, savoir c'est quoi mon film. Là. A Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, 1984.
Solide. Il était solide. C'est un monstre. Ça, c'est un des personnages. Le film d'horreur, ça, c'en est un, ça.
Et évidemment, il se démarquait parce que c'était pas juste l'histoire normale du tueur en série.
Ouais, c'est en plus, c'est ça.
Non seulement il se démarquait parce qu'il prenait pas un couteau ordinaire, hein. Il avait ce cher gant avec des lames au bout. Visage brûlé.
Il était pas très beau, hein, c'est ça?
Non.
Ben, quoi que tous les machins ne sont pas beaux de toute façon. Là.
Le maquilleur, son idée, son inspiration, ça a été une pizza.
Tu vois?
Oui.
Ben, c'est vrai que lui, Danny, vous ne savez peut-être pas, mais il y a le coffret, là. Il y a les 6, 7?
7.
Dans le coffret, il y a les 7, c'est ça?
Oui.
Là, ça compte pas Jason Freddy. Là.
Non. Okay. Puis, c'est ça, Bob Shay de New Line Cinema, qui est producteur de ce film-là, sont allés voir Paramount pour le faire distribuer. Puis Paramount, qui avait déjà Vendredi 13 avec eux, il avait déjà Halloween. Donc, on dit, ben là, le style s'essouffle. Vas-y, déjà en 84, on était déjà rendu à 4 Vendredi 13, 3-4 Halloween. Fait qu'ils ont dit non. Fait que New Line se sont débrouillés tout seuls, puis. Finalement, c'est une des franchises les plus lucratives de New Line, à part Lord of the Rings.
Ben, c'est à cause de Lord of the Rings que là, Freddy est passé en deuxième. C'est ça. Mais pendant longtemps, c'est Freddy qui les a menés, qui les a tenus en vie. Là.
Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais faire une émission spéciale de rétrospective, étant donné que le remake sort.
Oui. Ben ça va être après la saison. Ça va être une deuxième.
Oui, ou sinon peut-être qu'on attendra sortir DVD si on n'a pas le temps. Ouais.
Alors, fait que ça fait quand même partie de ton top 10 pareil. C'est bon, j'aime ça. Continue. Là, on est quand même passé. Là, tu es en ordre chronologique, là. On est passé 89. Des chronologiques. 89, 88, 85, Back to the Future. À Nightmare on Elm Street, 84. Puis là, il était à moi. 82.
Et oui, Star Trek 2, La colère de Khan, 1982. Réalisé par Nicolas Meyers. Le Star Trek le plus sombre.
Oui.
Dans le cas de la période avec Kirk.
Oui, non, c'est vrai. C'est quand même.
Le plus suspense, le plus. Ben, peut-être pas le plus action parce que le 3 donne pas sa place non plus. D'ailleurs, c'est une suite directe, 2 et 3. Puis Khan, Ricardo Montalban, avait déjà apparu dans la série originale.
Bon, parce qu'il faisait un lien direct avec la série. C'est ça tout qui était plaisant aussi.
Ouais.
Je vous ai promis, quand tu regardes les costumes, c'est assez catin.
Ouais. D'ailleurs, là, les costumes étaient tellement appréciés. Ils ont toffé, même dans les séries plus tard de Next Generation, quand ils font des liens avec le passé ou okay, d'autres,
moi,
d'autres
sphères. Moi.
On les voit encore, ces uniformes-là.
Okay.
Ouais, Star Trek 2, direction photo excellente. Que dire? Ben, la série originale, tu sais, ça parlait beaucoup. Puis même Star Trek Motion Picture, c'était assez tranquille.
Ouais, c'est ça. C'est assez philosophique et psychologique. Là.
Donc là, ça brossait pas mal. Puis, évidemment, c'était la mort de Spock.
Ouais, ça, ben, c'est pour ça que ça finissait mal. Ça faisait comme un lien avec Empire Strikes Back.
Exact. Parce qu'on sentait qu'il y avait peut-être un espoir de faire quelque chose. Parce que, tu sais, il disait carrément, il envoyait la torpille de Spock sur Genesis, et que Kirk devrait revenir plus tard, parce que Spock avait dit, il y a toujours des possibilités, pis nan, nan, nan. La musique, c'était James Horner.
Oui, Horner. Ouais, c'était pas Jerry Goldsmith qui avait starté, justement, le thème original. Mm.
Mais j'aime quand même le thème d'Horner aussi.
Horner, non. Ok, allez, je suis prêt. Ben oui, c'est sûr. Tu peux pas passer à côté de ça.
Là, je suis pas sûr de l'année. Là.
Non, c'est 81.
81, ok.
Ouais, 81.
Raiders of the Lost Ark.
The Lost Ark.
The Lost Ark. Ou, si vous préférez, Indiana Jones.
Ouais, et... maintenant, on dit Indiana Jones. Et les aventuriers de l'Arche perdue.
J'ai... OK, les trois premiers Indiana Jones sont des années 80. Le troisième est en 89. Le deuxième, je sais pas.
En 85.
Bon.
84, 85.
J'ai... Ben, puis j'aime la quatrième aussi. Je les aime toutes. Mon préféré, pas capable de choisir. C'est sûr que c'est pas le 4, parce qu'il est comme trop différent. C'est un comeback, si tu veux. Puis le 3, je trouvais que, bon...
Ça met un peu au con.
Sean Connery, il fait pas mal de Connery, justement. T'sais, il fait son con jusqu'à la fin, puis après, ça voit tout d'un coup... Là, il...
Ben, c'est un élément humoristique. Tu sens que c'est un élément qui va juste alléger le scénario. C'est intéressant.
Ah oui, oui. Mais finalement, j'ai adoré le deuxième aussi. Mais le premier, je l'ai mis parce que c'est un des premiers films que j'ai loué à lui. Ouais, mais je vois pourquoi. Moi, ça a pris du temps avant que j'en loue. Okay. Je pensais pas. C'était les débuts des clubs vidéo puis des dépanneurs clubs vidéo à Thetford.
Moi, c'est mon père qui m'a fait connaître ça. Puis mon père, c'est pas un amateur de cinéma, mais pas du tout.
OK.
À ce moment-là, il était plus jeune un peu, donc plus fringant. Puis il y avait une vidéo, puis il découvrait la vidéo. Il est comme toi, il découvrait la vidéo, mais lui, si je me trompe pas, il passait à la télévision. C'est la première fois que je le voyais aussi attentionné à ôter les messages pour avoir le film en soi. Là. Alors, il y a un message, c'est à côté, là, on approche du message. Pause! OK, on est prêt. On est... Ouais, moi, je suis jeune à ce moment-là, je vais avoir 10 ans. Même pas 10 ans. Je vais avoir 8 ans. Puis là, je le vois de même devant la TV. Puis, tu sais, Indiana Jones, pour un enfant de 8 ans, il n'est pas sûr. Hein, c'est quand même pas léger non plus. Là. Il y a des morts, puis bon, ça brasse. Puis... Ça m'a marqué, ça. J'en dis pas plus.
Mais c'est bon, ça nous rappelle que c'est une autre époque. Hein? On enregistre avec un VHS, puis on enlève les pauses.
C'est ça. J'ai fait ça longtemps, mais non, moi, il colle.
Puis que moi, je vais louer des films dans des dépanneurs. Parce que le seul club, le vrai club vidéo de Thetford, ça a coûté 7$ pour louer un film si t'étais pas membre.
Mais je me rappelle, le seul autre club bêta qui existe, qui a tout fait longtemps, il fallait qu'on passe de la rive sud de Québec à la rive nord pour aller voir notre film. Là. On veut louer un film, bon, ben, on fait un tour de char. On roule. On traverse les ponts. Puis on va chercher notre film. Puis le choix était pas vague. En tout cas, on a loué souvent les mêmes films. Mettons. Fait qu'on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Oh, Colin.
1982. Produit, écrit, ben, ou co-écrit.
Co-écrit, ouais.
Storyboard de Spielberg. Mais comme il était affairé à faire E.T.,
Il était souvent les alentours, par exemple.
Ouais. Il a laissé
les commandes
à Toby Hooper. Toby Hopper.
Ouais, ben moi j'ai une vieille biographie de Spielberg. Puis sûrement tu l'as entendu aussi. Vers la fin du film, Spielberg a fait: regarde là, Toss-toi, je prends les rênes. Ça n'a pas de bon sens, là, ce qui se passe. Là. Je finalise le film.
Ouais, il a retourné quelques scènes.
Ouais, il a tourné quelques scènes, puis la finale.
Pour ça que, pour moi...
On a nommé le film. On a nommé.
Poltergeist, La Vengeance des Fantômes.
C'est ça que je cherchais en français. Je savais pas c'était quoi en français. La Vengeance des Fantômes. Ça n'a aucun lien, pas rapport, pas en tout. Tu vois, un titre français proche.
Ben, ça dit un peu ce qui se passe.
Bon, oui, ça le dit, mais ça n'a aucun... Poltergeist. Un Poltergeist.
Ouais, mais appeler ça Esprit fait peur, ça n'aurait pas été bien même en
vente. Tu gardes en anglais.
En tout cas. Ben, de toute façon, dans les nouvelles éditions, il s'appelle pas La Vengeance des Fantômes.
Il garde ça en anglais?
Ouais.
Le Poltergeist, il en a eu combien?
Il en a eu 3.
Plus une série, ça se peut-tu?
Qui a pas rapport, je pense.
Je n'ai pas aucune idée, je te pose la question.
Poltergeist Legacy, oui.
Legacy, c'est ça. Mais, en tout cas, revenons à nos moutons, on parle de Poltergeist numéro 1.
Oui.
Qui était solide, là.
Oui.
T'sais, ancré dans la réalité. C'est ce qu'on voulait nous faire croire.
Moi, en partant, je l'ai vu à télé, comme bien des films des années 80 et 70 que j'ai découvert par après à télé. Ça me rappelle le feeling que c'était souvent à Radio-Canada que ce genre de film-là passait. Soit le jeudi soir au grand film, ou le samedi soir. Puis j'ai souvent écouté ça avec ma mère, parce que mon père travaillait à mine de 4 à minuit. Donc, ça a souvent été des soirées avec ma mère à écouter des films comme ça.
Non, oui, t'as bien écouté des films d'horreur.
Ben, j'étais pas si
horreur. Elle savait pas. Elle te découvrait tout le temps. Oh non! Ah!
Puis Spielberg s'est inspiré quand même de...
Bon, en fait, on n'a pas de... On réinvente pas le genre. C'est dommage. Là.
Alors, 1980, Stanley Kubrick, inspiré d'un roman de Stephen King, The Shining.
Que Stephen King renie.
Oui.
Ben, on parle de cette version-là.
Ouais. The Shining, avec, ben d'ailleurs...
Jack, encore.
Ah oui.
Jack revient dans ton top.
Shining, j'ai découvert très tard, en 93. Pourquoi? Ben parce que à chaque fois, j'avais toujours d'autres choses à louer, ou ben j'étais avec une fille, donc il fallait louer d'autres choses.
Ok, c'est toi qui avais les culottes,
ça. À un moment donné, ça a bien à donner, puis Lee me l'a proposé, puis...
Ouais. On se lance. Mais tu n'avais entendu, là.
Ben oui, j'avais entendu, j'avais vu des photos, des fois. Là.
La fameuse photo de Jack dans le cadre de la porte, tu sais.
Wendy! L'hôtel Overlook. En fait, c'est un studio, mais Colin. Méchant studio.
Un gros studio, ouais. Ben, Kubrick fait rien à moitié. Ah, oh, Kubrick, là, il était ça. C'est puis mon
le,
homme, ça.
Le petit gars, là, Danny, qui s'appelle Danny Pourvoquet, d'ailleurs.
Oui.
Il y avait une règle cinématographique qui faisait qu'il pouvait pas tourner plus que tant d'heures par jour. Donc, il a fallu qu'il se débrouille avec ça aussi.
C'est un enfant, moi, c'est ça.
Aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont tourné en pellicule, mais ils tournaient en vidéo en même temps. Et ça leur permettait tout de suite de voir l'image, qu'est-ce que ça donnait. Faut pas perdre de temps. Puis, presque tout le film a été tourné en steadicam. Caméra accrochée après le caméraman. Donc, il peut marcher, courir, monter des escaliers, y aller de reculons. Puis, c'est ce qui fait que ça flotte.
Mais, justement, Kubrick, c'était un gars difficile de voir le cycle, c'est un perfectionniste. Là, que si c'était un temps soit peu inappréciable ou irregardable, il reprenait.
Ouais. Mais moi, ça me venait chercher parce que, bon, j'ai vu en 93, mais tu sais, bon, quand j'étais jeune, j'ai eu un Big Wheel. Puis comme lui, tu sur le tapis, il y avait des motifs, fait qu'il pouvait promener ses petites autos dans les chemins. Tout fait ça. Fait que c'est ça.
The Shining. L'enfant lumière en français. L'enfant lumière. Ben oui, ben là, tu peux pas passer à côté de celle-là. Ça, dans le concours, genre. Je pense qu'il revient presque pratiquement tout le monde le nom.
C'est quel réalisateur, là?
Ça, c'est Erwin Kirchner.
Produit par Lucas.
Mais évidemment. Même pas écrit par Lucas. L'histoire est de Lucas, mais c'est même pas écrit par Lucas.
The Empire Strike Back.
Le meilleur, selon moi.
Ouais. Peut-être le deuxième que j'ai vu, peut-être le troisième. Même. Je pense que je les ai vus en désordre. Okay. Mais à super écran. Durant un grand débrouillage. J'ai fait tabarnouche, méchant cadeau qu'ils nous font.
Seigneur, oui.
Puis je me rappellerai toujours du feeling parce que j'ai mon film dans P Contre-Attaque qui est enregistré, mais t'as les numéros d'abonnement qui passent dans le bol d'écran. Mais c'est pas grave, tu sais. Ça fait partie de ça.
Les souvenirs, oh oui.
Ah ouais.
Là, on est. C'est le dernier, là, il en reste un, là. Bah, ben oui, je l'avais même pas. C'est en 80.
Et oui.
C'est pas plus tard que ça?
Non.
Ah.
On parle ici de Superman 2.
Oui, mais Superman 2, tu m'as fait assez de monter de lait à mener dans un podcast concernant Superman 2.
Que j'ai jamais fait, finalement.
Donc, ça a été hors-onde, la montée de lait? J'ai subi ça tout seul?
C'est-à-dire que je l'ai enregistré, mais c'était le début de l'horreur.
Mais profitez alors,
je suis
là.
Ah non, je peux pas, on n'a pas le temps.
Ah, zut.
Je vais faire une émission extra pour ça. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que Superman 2 a été réalisé par Richard Lester, et non Richard Donner.
Hmm.
Richard Donner qui a fait le 1.
Oui,
puis j'ai apprécié le travail de Richard sur le 1. Mais après ça, je me suis acheté la version Richard dans le cut de Superman 2. Et j'ai tombé en bas de ma chaise parce que ça a fait... À chaque chose qui a changé, là, j'étais pas d'accord du tout. Mais pas tout en tout, ça tient pas la route. Mais on n'a pas le temps. Je vous promets de faire une émission sur ma montée de lait. Elle va durer au moins 15-20 minutes.
Fait que là, toi, c'est... Là, tu parles... Lui, c'est Lester.
Ouais.
Que t'aimes, la version que t'as vue. Est-ce que tu l'as revue?
Ah oui.
Tu l'as retrouvé.
Ah oui.
OK.
Je l'ai.
Ça fait que là, t'as ici, présentement, deux Superman 2.
Oui, mais lui de Lester, il est en VHS, par contre.
OK, non, mais tu l'as pareil. Ouais. Okay, ça fait que t'as les deux versions.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le contrat que Donner avait eu, c'était de tourner les deux en même temps. Puis il avait commencé, en plus.
OK.
Le deuxième aussi. Mais d'ailleurs, c'est ça, je pense que c'est une dépression, quelque chose de même, qui a fait qu'il a lâché après le tournage du 1. Mm. Parce que c'était un méchant gros morceau, faire de ces deux films-là.
Ben, Superman, c'était un des gros projets, un des gros films à budget de l'époque.
Là. Ouais.
Qui est sorti en quelle année? 77? 76?
78.
Je sais pas, je te pose la question, je sais pas.
78. Alors, avec l'excellent Christopher Reeves, je me demande si un jour quelqu'un va vraiment pouvoir le remplacer de la bonne façon. Parce que
pour Superman, dans ce cas-là.
Parce que Brandon Yott...
Roth, non, il n'a pas fait... c'est correct, c'est honnête. Là.
Mais quand Ellie va nous dire, c'est un genre de Keanu Reeves. Pas d'expression.
Non, c'est ça, c'est plastique. Là.
Alors, c'est mes 10 films. Je dirais pas tout de suite mes bonnes notes ou qu'est-ce qui aurait pu être dans le top. Question de laisser la place à François, tout d'un coup qu'il n'aurait dans cette liste-là. Puis à la fin, je les dirai.
D'accord.
Fait qu'on va aller en pause. Et après, ce sera le top des décennies 80 de François!
Vous croyez en la vie après la mort? Les fantômes? Les cas de possession? Alors écoutez... Fréquence. L'émission où les morts vous parlent. Au www.fréquence.net.
Nous sommes de retour pour le top des décennies 80 que François attend depuis longtemps.
Depuis très, 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 très longtemps. Depuis que Danny m'a parlé du concept. C'est la plus belle période, pas compliqué. Comme j'ai dit tantôt, c'est la période souvenir, nostalgie, qui façonne notre culture. Ouh, j'ai le cœur qui pompe, là. Je vais me dévoiler, là. OK, je reprends mes esprits. Puis, je suis comme Danny, je suis pas en ordre là, de numéro 1 ou à numéro 10, c'est pas le mail. Puis, je suis pas en ordre de chronologique non plus, ça va y aller free for all. Fait que le premier que j'ai à vous dévoiler, que j'ai découvert quand même à peu près dans la bonne période, mais que j'ai pas vraiment compris parce que c'était un humour qui me dépassait un petit peu à ce moment-là, puis que j'ai redécouvert puis que je revois toujours, c'est un classique, c'est Elvis Graton.
Oh.
Le King des Kings de Pierre Falardeau en 1985. Mais j'ai vu, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu en 85. Je l'ai vu peut-être un petit peu plus tard, puis je connais. J'ai pas embarqué tout de suite, mais c'est un classique. Là. Maintenant, c'est un classique. Va donc te faire couper les cheveux, mon whispouilleux, puis l'affaire de main, puis ton cheveu toujours un petit peu à gauche. Tu sais, la fameuse séance photo, là.
Mm-hmm.
Tu sais, les allusions de Falardeau qui jouait le photographe, justement, qui dit à Julien Poulin. Encore un peu à gauche. Puis il lui dit une réplique. Encore un peu à gauche. Une réplique. Tu sais? Les allusions rouges et bleues, là, elles sont fortes là-dedans. Moi, je découvrais Falardeau avec ce film-là. Puis par après, évidemment, moi, j'ai suivi sa carrière à M. Falardeau, qui est maintenant décédé, Dieu et son âme. Pas sûr, en tout cas. C'est ça. Fait que ça, c'est ça pour Elvis. L'autre... Ben l'autre, c'est plus à cause de l'homme, plus que la production, parce que j'ai deux productions en soi qui m'ont marqué, mais c'est à cause du comédien.
Okay.
Je vais nommer les films, puis vous allez tout allumer. Ça, c'est Beverly Hills Cop et L'Enfant Sacré du Tibet.
Ouais.
Eddie Murphy, les années 80, lui appartiennent.
Ouais.
Selon moi, là, le comédien humoristique des années 80, c'est Murphy. Je crois.
C'est un des grands.
Ouais, très personnel, évidemment, là, c'est selon moi. Là. Mais Beverly Hills Cop, j'ai découvert ça aussi, à peu près dans le même temps. Puis lui, c'était un humour qui était plus accessible un petit peu. Puis son rire. Moi, j'ai vu. J'étais pas bilingue à l'époque, là, j'étais trop jeune. Fait que j'ai découvert Eddie Murphy en français. Fait que donc, son rire en français. Fait que faites-moi pas écouter la version anglaise, là, même si elle est sûrement très bonne. Je l'ai déjà vu par après. Là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fameux rire étouffé qu'il fait en français. les répliques en français. Puis la même chose pour The Golden Child, c'est les répliques. Le film en soi est pas très bon. C'est pas un grand film, puis les effets spéciaux sont ordinaires. C'est Michael Ritchie qui a réalisé, qui a une carrière assez obscure là, par la suite. Là. Mais les répliques, tu sais, les fameuses répliques, là, je veux la dague. Puis, il est en train de rouler avec sa main sur la fameuse gros poteau là, au Tibet, là, puis il parle à tous les moines là, qui sont autour de lui. Là, puis il niaise, tu sais, il niaise. Ou bien, il est dans l'avion avec la musique. Il s'installe, les deux écouteurs étaient foirés. Puis là, il dit, non, c'est quoi cette cochonnerie de musique-là? Puis il embarque dedans, pareil, puis il s'installe. Puis, oh, ouais! Puis là, il ferme les yeux, puis il chante, là, il se met, là, il est dedans. Là. C'est pourri, mais il chante pareil. Ou ben non, il est attaché, il y a des truands autour, des gros méchants, là. Puis ils ont enlevé l'enfant sacré, puis là, il est là pour le sauver. Mais là, il s'est fait pogner. Puis là, il y a un méchant, un Soulon qui s'approche de lui. Puis qui parle. Puis là, la réplique du Murphy qui dit pioche dans ma poche, j'ai des tic-tac, pioche dedans, ça rafraîchit. C'est ce genre de réplique-là qui marque, là. Que je me sers encore maintenant, là. Tu sais, c'est niaiseux, là.
Mais moi, je n'ai vu aucun flic de Beverly Hills.
Hein? Jamais?
Jamais.
Même encore, t'es vierge de flics de Beverly Hills?
Oui.
D'ailleurs, Eddie Murphy pense à faire un quatrième. Parce que sa carrière est assez so-so, là.
Et parce que beaucoup de séries qui sont à 3 deviennent à 4. C'est comme une mode.
Oui, ouais, il y a ça aussi, là. Mais le 3 n'était pas nécessaire, par exemple. Il était assez ordinaire, là. Mais, ah ouais. T'as jamais vu ça, pas tout?
Non.
Moi, je travaille longtemps, depuis un méchant bout de temps, pour avoir le coffret du 1, 2, 3. Même si le 3, j'ai plus ou moins aimé, là. Le deuxième était solide. Si je ne me trompe pas, c'est Tony Scott qui avait réalisé le deuxième. C'était très bon aussi, là. Le personnage, on sentait que Eddie Murphy commençait à être un petit peu imbu lui-même. Là. Il commençait à prendre la place, puis il savait qu'il avait du pouvoir. Puis... Mais il n'a pas débordé. Dans le deuxième, il y a encore son personnage là, d'Axel Foley. Là. Il l'a bien. Mais le premier, c'est Winner. C'est les fameux jokes de la banane dans le radiateur. Pas dans le radiateur, mais dans le muffler, pour étouffer les deux, puis les deux policiers qui le suivent. Ah, il est solide, le premier. Là. La musique de Pointer Sisters, je pense.
Oui.
Si je ne me trompe pas, au début, on installe le personnage, puis il court après une vanne, puis là, t'entends la musique, tout, puis il se fait brasser le bonhomme, là, c'est drôle. Ah, Beverly Hills Cop, c'est une de mes comédies policières préférées. Avec les Blues Brothers, mais les Blues Brothers ne font pas partie de mon top. Il fallait faire des choix, ouais. Malheureusement.
Ben oui, Blues Brothers, ça vaut la peine de juste le souligner.
Oui, il faut souligner. Dan Aykroyd était un de mes scénaristes préférés. D'ailleurs, parlant de Dan Aykroyd...
Oh!
Ça la donne de même, je sais pas, c'est le film qui suit, là. Mon film fétiche, que j'ai toujours, que je me cache pas, puis que je le nomme tout le temps, là, je suis fatiguant. Ghostbusters.
Ouais.
SOS Fantôme, 1984, Evan Reitman. D'ailleurs, qu'il y a des rumeurs qu'un troisième s'en vient. D'ailleurs, je pense, Aykroyd a réussi à avoir Bill Murray. Bill Murray a toujours dit, non, oubliez-moi, là, c'est fini, là. Fini, c'est assez, là, je veux plus, là. Mais il a l'air de se laisser convaincre pour revenir dans un troisième. Puis, il a l'air d'avoir les autres comédiens originaux. Sauf Sigourney Weaver. Weaver a l'air de dire qu'elle ne reviendra pas. Bon, dommage, là. En tout cas, peu importe. Puis, c'est pas sûr que c'est... Redman travaille fort pour faire le film. Mais je pense que les studios ne veulent pas qu'il revienne. Parce que ces films, dernièrement, là, depuis 10 ans à peu près, là, c'est assez ordinaire. Là. De mémoire, j'ai... Ma blonde est une super-héros, je sais pas,
okay,
mon ex, en tout cas, c'est assez ordinaire, merci, là. Ouais, Évolution, avec David Duchovny, c'est assez ordinaire aussi. Fait que Redman, malheureusement, Redman père et non Redman fils, là, Jason, qui lui, à la cote. Bon, le père est en train de descendre. Mais Ghostbusters, c'est... Et je fais attention à ce que je vais dire. Sûrement, un des trois meilleurs films à vie. Et, maudit, attends, peut-être pas trois, peut-être cinq. Cinq, à vie. À vie. Fait que là, je vous donne un cue pour l'année qui va se passer plus tard. Je dis pas plus, là, c'est... J'en dis pas plus. Fait que Ghostbusters. Mais là, de toute façon, que dire de plus sur Ghostbusters?
Qu'il y a eu une série de dessins animés aussi.
Oui, que j'ai suivi, évidemment. Puis d'ailleurs, j'ai Ecto One chez nous. Ecto One, ceux qui ne savent pas, c'est le véhicule. La sorte de grosse ambulance.
Oui.
qui appelait Ecto One à cause d'ectoplasme. OK. La série animée, il y avait Ecto 2. Ecto 2 qui était une sorte d'hélicoptère qui se changeait en moto, là, puis je l'ai aussi. J'ai trippé sur les gros Ghostbusters. J'ai tous les personnages, là. J'ai toutes les petites figurines chez nous.
Dans ce cas-là, tu te dois d'avoir le film Casper.
Pourquoi? Parce que dans oui, je l'ai. J'ai le film. Dan Aykroyd apparaît en Ray Stantz pendant une fraction de seconde dans le miroir.
Non, c'est pas ça.
Hein? Ah oh, non, c'est vrai, il faut débarrasser de la maison.
De fantômes.
Des fantômes, puis il apparaît, puis il ressort tout de suite, puis non.
Qui c'est qu'on appelle? Quelqu'un d'autre.
C'est ça, et puis il ressort tout de suite. C'est vrai, t'as raison. Ah, là, on s'éloigne, là, Casper. Bon. Fait que Ghostbusters, ben regarde, Ghostbusters, c'est Gazer, c'est le cerbère de la porte, le maître des clés, puis Rick Moranis qui est possédé, puis qui fait un chien, puis je me rappelle, moi, j'en voulais tellement un deuxième avant qu'il sorte, parce qu'il y a eu 5 ans d'intervalle entre les deux, que j'avais écrit un scénario.
Oh!
C'était pas épais, là, pour l'époque, mais j'avais écrit un scénario. Évidemment, je m'incluais dans le scénario. Je me mettais en scène, puis les Ghostbusters étaient... Ben, la troupe était là, puis moi, j'étais handicapé, pauvre enfant, handicapé. Je me rappelle, là, c'est pas drôle, là. Ce que je vous compte là, je l'ai jamais compté à personne. J'étais dans un lit d'hôpital, là, puis là, Ghostbusters venait m'aider parce que j'avais vu des visions d'un monde parallèle, puis qu'il y avait un monstre qui s'en venait, puis qu'il fallait vite trouver le portail pour... Puis j'étais la sorte de
médium.
De gardien de la porte là, qui pouvait les aider à rentrer, puis arrêter le méchant. Puis... Mais ça, c'est ça. Fait que Ghostbusters, j'avais fait mon Ghostbusters 2 avec le vrai sort.
On apprend des choses.
Oui, c'est ça. Fait que vite, passons à l'autre. Alors, bon, ben c'est sûr qu'il y a quelques similitudes avec Danny. Mm-hmm. Et la première qu'on a, c'est, je ne peux pas passer à côté, The Riders of the Lost Ark. C'est pas mon premier Spielberg, par exemple. Okay. J'ai découvert Spielberg à cause de Rencontre du troisième type. Mm-hmm. Fait que moi, Riders, c'est le héros qu'on veut, là, tu sais, qui n'est pas clean, qui n'est pas propre. C'est pas James Bond, là, tu sais. Il a des défauts, puis il a peur des serpents, puis... Il n'aime pas les nazis, puis il dit qu'il les aime pas. Les nazis,
c'est quasiment un Han Solo de l'époque des années 30.
Ouais. C'est ça. C'est le personnage qu'on aime détester un peu, mais finalement, à l'usure, il nous vient sympathique. Puis il l'est aussi, là. C'est un gars intelligent, puis pragmatique. Puis qui a ses défauts. Un peu une sorte de John McClane des années 30, comme tu dis. Même principe. C'est déjà. Bon, là, je veux pas me répéter, fait que Riders en a parlé. Fait que Riders, c'était un incontournable, évidemment. Oui. D'ailleurs, dans le concours sur cinemascope.net, il revient souvent.
Ah.
Ouais, il revient. Il a marqué le monde, Riders. Indiana Jones, numéro 1. Là, c'est un duo créature. On va appeler ça de même. Un de mes films de science-fiction que j'ai pas revu depuis un méchant bout de temps, parce que j'ai passé premièrement mon coffret à un chum qui me fait un an. Ça fait un an et demi de ça que j'ai passé le coffret, puis il est encore. Avec tous les bonus, puis tout. Là. La quadrilogie. Mm-hmm. La quadrilogie, pardon. Mon film de science-fiction, action.
Horreur.
En plus. Il faudrait que je revoie, parce que j'ai quelques amis qui m'ont dit qu'il n'y avait pas des bons feedbacks, là, depuis. C'est Aliens, le numéro 2, de James Cameron.
Oui.
James Cameron, qui a toujours adoré les effets spéciaux. Ça, c'était son deuxième gros film. Il a fait d'autres films avant. Il a fait Terminator, puis il a fait Piranha, puis il y a peut-être d'autres petites affaires qu'on veut pas nommer. Là. Mais ça, un film de studio, Aliens, qui est une suite à Alien, c'est fait une excellente suite. Là. Ça brassait. Là. C'est très patriotique. Là, ça. Mais on se souvient encore de la fameuse bagarre de la fin. Là.
Ah oui!
Dans la grosse machine jaune.
Une espèce de lift de, robot.
Ouais, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Là. Contre la reine.
Qui est une marionnette ou un animatronique, mais crime. Il n'y a pas de 3D, là.
Non, c'est ça. C'est,
tu y crois, là.
C'est tangible, là.
Tu y crois.
Oh, ouais, elle est là. Sigourney Weaver est devant, puis ça brasse.
Puis c'est tellement bien tourné, bien réalisé, que t'as peur pour elle. Tu dis, mais je voudrais pas être pogné dans cette patente jaune, là.
Puis Bishop, tu sais.
Ah oui.
Bishop qui se fait découper en deux, mais tu l'apprécies. Tu finis par l'apprécier, le robot. Là, puis qui t'offre pareil, puis oh, regarde, c'est solide. Le film était solide. Là. faudrait que je le revoie. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait un méchant bout de temps, puis sûrement que je le reverrai, puis je verrai des défauts, des affaires qui me fatigueraient. Mais moi, mon souvenir, voilà un film d'action qui mélange bien les genres.
Oui.
Tu sais, un mix de genres. Le scénario en soi, ben, c'est assez basic. C'est une histoire simple, on va secourir du monde, puis on se fait piocher dessus. Bon, pas compliqué, là. Mm. C'est la survie. Fait que mon duo, mon autre créature, c'est un film de John McTiernan.
Oh!
Oh! En 1987, que j'ai vu en partie, parce que j'essayais de reprendre sur moi, je suis un homme, là, tu sais, je suis viril, je me découvre, puis là, Retour vers le futur, c'est pas épeurant, finalement, tu sais. Fait que là, je suis capable, je regarde des films d'hommes. Je parle de Prédateur,
ouais.
Qui est encore, selon moi, une des meilleures créatures de science-fiction. Malheureusement, mal exploitée.
Ouais.
Bon, c'est dommage, c'est ça. Mais le numéro 1 reste le meilleur de la gang jusqu'à date.
Oui.
Puis je crois que lui qui va sortir cette année ne surplantera pas celui-là de 1987, qui est réalisé par Alex Rodriguez. Ouais. Non, pas réalisé, produit. Pas produit par Rodriguez, mais réalisé par un nobody, là, que je ne sais plus comment c'est quoi son nom. Là.
En tout cas, l'original, c'est un autre film qu'il faudrait que je revoie.
Avec Arnold Schwarzenegger. C'était à sa grosse période.
Je ne me rappelle pas non plus énormément.
Non, toi? Ben, je l'ai chez nous. Moi, j'ai le 20e, 25e anniversaire avec plein de bonus puis tout. Là. Il vaut la peine. Fait que, puis Alien, Predator, il y a eu longtemps des rumeurs, tu sais.
Ben, il y a eu des jeux d'arcade.
Oui, entre autres, là, des confrontations.
Des BD, tout ça. Ben.
Finalement, ça a donné Alien contre Predator de Paul W. Anderson, qui était ordinaire. Puis le deuxième, encore pire. Puis j'espère qu'on arrête là. Parce qu'on détruit ma créature. Fait que, Predator, d'ailleurs, anecdote, je l'ai vu en duo au cinépark pour la première fois. Je l'ai pas vu au complet parce qu'il était deuxième film. T'sais, il y a le premier film. Qui était Mannequin. Je sais pas si vous vous souvenez de Mannequin.
Ben, certain.
La comédie avec Kelly LeBrock, c'est ça?
Je sais pas. Tout ce que je
non,
sais...
Non, pas Kelly LeBrock.
Il y a eu une période des années 80, là, à tous les mois, il passait à TVA. Un samedi après-midi, là. Tous les mois.
Tu te souviens de Mannequin?
Ah oh, oui, je me disais hier. Ah, oh, je l'ai manqué, c'est pas grave. Le mois prochain.
Ah. Oui, oh, mais c'était tellement poche quand tu regardes ça. Finalement, mais c'est pas Gilly LeBrock, je me tombe. Gilly LeBrock, elle était dans Weird Science, okay. Créature de rêve. Là, le nom de la fille, je me rappelle pas. Je pense que c'est elle qui joue dans Sex and the City. Une des. Comment qu'elle s'appelle, Noël?
Je sais pas, mais moi, j'aime modifier mon top. Weird Science.
Weird Science. Si je viens de te flasher, là.
Hey.
Créature de rêve.
Hey, je l'ai écouté, ce film-là.
Ouais, ben moi aussi je l'ai vu souvent, mais c'est parce que, à cause de Kelly LeBrock, là, on découvrait la puberté. On était adolescent.
Mais ça, c'est un exemple. C'est ça un film des années 80.
C'est ça un film.
Adolescent, ouais. Comédie, avec un peu d'informatique dedans.
Ouais, c'était assez, ouais, c'est ça. Hein? Ouais.
Mais c'est ça.
Mais en tout cas, mais que, j'avais comme duo, pour revenir à mes moutons, là, en duo au cinépark, Mannequin, puis j'étais avec mes parents, puis toute la famille était là. J'ai pas écouté ça. On garochait les flots en arrière dans le coffre. Dormez dans le coffre, vous autres, là? Moi, pendant que les parents écoutent le film.
Dans le coffre?
Oui. Non, je me rappelle pas. C'est une cheville qu'on avait. Okay. Une vieille cheville lite, là. Ouais, ça, une cheville. Puis on était avec notre couverte. Puis on dormait, finalement. Mais on entend la musique. Puis tu te réveilles, tu regardes un peu. Puis je me rappelle que, tu sais, quand tu lèves les yeux, puis tu vois une grosse bébite comme ça, là, avec des dents qui bougent, là. Puis il est en train de décapiter un homme, là, tu te recouches. Tu te dis, ok, correct, c'est pas de ton âge. Là. Mais j'en ai regardé des parties pareilles. T'sais, je l'ai entendu tout le long du film. Là. Tu dors pas quand il y a du monde qui crie et qui tire partout. Là. Mm. Tu dors pas. Ça m'a marqué ce film-là. Mais ça m'a. Honnêtement, ça m'a bien marqué. J'ai pas mal viré, je crois, je pense. Fait que c'est ça pour Predator et Aliens, mon duo créature. Bon, Die Hard. Je l'ai nommé tantôt, je l'ai en poster, tu l'as nommé aussi. McTiernan, qui est selon moi un des meilleurs réalisateurs des années 80 au niveau des films d'action. Puis, les années 90, il a bien continué aussi, quoi qu'il en ait moins fait. Il a fait le numéro 3, que Ellie a beaucoup aimé. Il a fait À la poursuite d'Octobre Rouge, que j'ai adoré. À la poursuite d'Octobre Rouge, qui est avec Sean Connery, puis Alec Baldwin. Mais bon, on sait pas. Fait que Die Hard, 1988, avec la fameuse musique. Tu sais, on se souvient de la musique de Beethoven. Ta-na-na-na-na, là, puis le coffre qui roule, puis tu vois des méchants qui sont heureux. Tu sais, les yeux grands, puis ça. Wouhou! Ah, c'est vrai. Ah, Die Hard. C'est mon film. Piège de cristal. Fait que Batman fait partie de ma liste aussi. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Jack is the man. Fait que je ne pouvais pas passer à côté de Batman. Tim Burton est mon homme aussi. Moi, ça, j'en ai parlé tantôt. Bon, fait qu'on ne s'épivardera pas là-dessus. Je ne pouvais pas passer à côté non plus d'Empire Strikes Back.
Ah oui.
Évidemment. Qui est, selon moi, le meilleur des six.
Oui. C'est sûr.
Si on fait, on a déjà fait ça, puis on va le refaire, puis on aime ça faire ça. Selon moi, le cinquième Empire Strikes Back est le meilleur. Après ça, c'est le quatrième, New Hope. Puis, j'ai de la misère à... Pour le meilleur numéro 3, là. Je mettrais la revanche des Sith. J'aimerais ça le mettre numéro 3. Je pense que j'ai préféré celle-là que Retour du Jedi. Que je trouvais trop familial. Avec les petits Ewoks, les petites bébites, qui, d'ailleurs, revenaient beaucoup au numéro 1. Là. L'étoile noire, l'étoile de la mort. Bon, tu sais, on se répétait un petit peu.
Ben,
bon. Fait que ça, pour dire que Star Wars, évidemment, comme plusieurs d'entre vous qui avaient participé au concours... fait partie de votre liste. Il fait partie de la mienne. Il ne peut pas passer à côté. Maintenant, je vais en nommer un que Danny sûrement attend pas. Peut-être que j'ai jamais entendu parler de ça, je suis pas sûr. As-tu déjà entendu parler du film Akira?
Non.
Dessin animé Akira, ça te dit rien? Mm. Un manga... Ben, c'est référentiel, pas compliqué.
Sûrement que mes collègues d'Action Cut connaissent ça.
Sûrement. Mais c'est un manga science-fiction. Ça a été tourné en 1988. Puis, j'ai écouté la télévision comme tout le monde. J'ai connu Albatar, j'ai connu Goldorak, j'ai connu Candy, puis ces cochonneries-là. Là.
Capitaine Flamme.
Non, lui, j'ai pas connu. Je m'en plains pas. Mais, tu sais, je connaissais déjà le genre japonais, tu sais, la Japanization. Bon. Mais moi, j'ai grandi au cinéma avec Walt Disney. T'sais, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, puis il y a la petite morale, puis tout, tout. Moi, les films. Ou qu'il y a du sang, puis que c'est pas joli, c'est pas joyeux, puis c'est réaliste quand même, malgré que c'est un film de science-fiction. Là. Un film réaliste dans le genre. Je connaissais pas ça avant Akira. Ça a fait « Wow! » Je m'ouvre vers un autre monde. Puis je me rappelle, je sais plus comment j'ai découvert ça, mais le preview, ce que je voyais. La première image que je me rappelle de Akira, c'est une sorte de gros toutou dégoulinant qui fait environ 10 pieds de haut, qui vient faire peur à notre héros, ou anti-héros, qui est une sorte de médium, là, qui a un pouvoir en tout cas. Qui tourne autour dans sa chambre, puis qui. Crime, il est pas beau, là. C'est un nounours, là, mais il est alerte, là. Il était peurant, puis une sorte de poupée aussi, je me rappelle plus trop, là, mais une sorte. Il y a deux, trois jouets. Plus grand que nature, là, qui viennent effrayer le bébé, là. Ben l'enfant. Puis l'enfant, il a tellement de pouvoir qu'en criant, parce qu'il a peur, puis il a arrêté ça, fait voler la chambre en morceaux.
OK.
Puis là, cet enfant-là, après ça, se découvre que, oui, là, il découvre qu'il y a un pouvoir, là. Il y a quelque chose qui marche pas, puis là, il fait péter des... carrément péter des soldats. Il pète, là, tu sais, hein. C'est pas beau, là. Il y a du sang partout. Là, mon enfance a été morte. Il y a d'autres choses comme dessin animé. Fait que Akira, c'est réalisé par Katsuhiro Otomo. C'est de lui aussi. Hein. Le dessin animé et la BD sont de cet homme-là. Fait que ça, c'est pour Akira en 1988. Blade Runner. Moi, la science-fiction, j'ai toujours aimé la science-fiction. Ben, j'ai pas découvert en 82. En 82, j'étais même trop jeune. Mais j'ai découvert dans les années 80. Puis là c'est vrai, c'est peut-être un peu moins les tripes qui parlent que ma tête. C'est cérébral, mon affaire, là. Mais là, je t'avoue honnêtement que Blade Runner, c'est un beau mix. C'était un mélange des deux. Mais c'est vrai que c'est très cérébral, très intello. Puis Ellie va pouvoir vous confirmer, là, c'est Asimov, je pense. C'est tiré d'un des romans d'Asimov. Là, je suis loin, là. J'ai un chum, d'ailleurs, Luc. Il s'est acheté le coffret, il a trippé. Blade Runner doit faire partie de son top 3 à vie. Là. Il connaît tout de Blade Runner, puis il pourrait plus en parler que moi. Là.
Anecdote.
Vas-y.
Une des tours de la ville.
Ouais.
Le top, c'est le dessous, ou en tout cas une partie de la soucoupe dans la rencontre du troisième type.
Ben, arrête donc, oui. Mm. Hein? Ah ouais, je savais pas ça. Colin, c'est bon à savoir. Fait que Blade Runner, ben ça, c'est philosophique. J'ai aimé ça. C'est ce que j'ai aimé, c'est un peu comme...
Mais là, Harrison Ford, il est loin dans le solo, là. C'est autre chose.
Non, non, ouais, là, il jouait. Pour une fois, il jouait, là, un petit peu plus. Parce que les autres, c'est des personnages qui, sensiblement caricaturaux. Ouais. Tu sais, c'est un plaisir de le faire. Là, il commençait à travailler un petit peu plus son côté d'acteur. Puis qu'il avait, lui, d'ailleurs, il est personnifié, probablement, ouais, ça personnifie plus avec Witness de Peter Weir après ça, là. Tu sais, il cherchait à s'éloigner d'Indiana Jones. Puis faire un comédien de lui-même.
Ouais.
Mais Blade Runner, oui, c'est vrai. C'est, il commençait là à faire quelque chose de lui-même. Mais je me rappelle, c'est Roger Hauer, encore je me rappelle, du méchant robot de la... C'est quoi le nom qu'il disait? Pourquoi vous vous souvenez? Ça sert à quoi de se souvenir? On va mourir. On va tous mourir. De toute façon, ça sert à quoi d'avoir des souvenirs? C'est solide, pareil, quand tu y penses. Là, tu sais. Enfin, ça m'a marqué, ça, j'avoue. Fait que c'est ça. Je suis passé au travers de mes 10. Ben, mes 10, en tout cas. J'en ai 12, là, honnêtement. Là. Mais c'est ça. Après la pause, on fait les bonnes notes?
Ouais. Ouais, on va faire ça de même. Alors.
Oh, moi, j'ai trippé. Là. Ah, je me sens bien.
Ouais,
j'ai ma dose est là.
On va reprendre nos esprits, puis on va revenir après la pause.
Cinécure Club Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miron à Sainte-Foy. 418-682-3333 pour le film qu'il vous faut.
Et oui, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette émission.
Ouais.
En parlant d'autres films qu'on aurait pu mettre dans notre top, mais il fallait faire des choix.
C'est ça. Mais qu'on peut pas laisser de côté pareil. Faut qu'on les nomme.
Ça serait quoi, toi?
Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai pas mal. Non, pas mal. J'en ai 5-6 au moins, à peu près. Pour différentes raisons, mais c'est généralement des raisons souvenirs, nostalgie. Les Liaisons dangereuses,
oui.
Réalisé par Stephen Frears en 88, où j'ai découvert le film en costume. Tu sais, j'ai connu Amadeus avant, là, mais tu sais, j'étais trop jeune pour connaître Amadeus. Tu sais, ouais, entre autres. Barry Lyndon aussi. Tu sais, j'étais trop jeune pour apprécier. Là, je l'ai apprécié, lui. Je l'ai découvert, puis je l'ai aimé. Là. Tu sais, j'avais quoi, 14-15 ans, à ce moment-là. Fait que, puis en plus, Michelle Pfeiffer était dans la fleur de l'âge.
Mm.
Puis je découvrais John Malkovich, qui est un excellent comédien, qui a toujours été un excellent comédien. Puis là, il était solide. Là. Fait que ça en est un. The Thing, que j'ai vu pas sous le coup, parce que j'étais trop pissou. Puis j'ai vu tard, puis encore là, j'ai de la misère à le regarder. je l'ai chez nous, là, en VHS. Je sais pas, je veux pas le regarder. Ou si je le regarde, il va être 2h l'après-midi, puis le soleil va faire bel soleil.
Franchement.
Alors, je suis une main, qu'est-ce que tu veux, ça m'a marqué.
Ouais, prends ton Box Bunny.
Ouais, ça, je vais prendre mon gros Box Bunny, puis je vais regarder juste le coin de l'écran. Mais ben, avoue que c'était épeurant, c'est bien fait. Tu sais, on parlait tantôt d'Alien avec des effets, tu sais, tangibles. Là, on sentait que ça, c'était des vraies créatures. Là. Fait que The Thing, le remake, évidemment, parce qu'on est des années 80.
Non, c'est ça.
En 1982. L'effroyable créature, en français. Un qui est un incontournable, Spaceballs.
Oui.
Qui arrivait trop tard, pas aucun rapport, mais Mel Brooks voulait faire sa parodie. Il avait raison de le faire. C'est sûr que c'est venu sur le tard, mais il y a des bonnes répliques pareilles. Rick Moranis en... Comment ça s'appelait donc là-dedans? Casque noir! L'effroyable casque noir. Ah, en tout cas. Spaceballs, moi j'ai beaucoup aimé ça, c'était drôle. Et Ferris Bueller.
Oui!
On a toujours rêvé.
Ferris Bueller, puis Weird Science, c'est ça les films des années 80.
Ouais, John Hughes. John Hughes, c'est lui qui a fait la période adolescente des années 80. Qui nous a marqué. Son film de John Hughes, moi je pense, selon moi, sa carte de visite de John Hughes, c'est Breakfast Club.
Oui. Eh ben oui.
Hein?
Colin.
C'est lui. C'est encore lui. Ferris Bueller, moi, j'ai aimé ça parce que j'aurais toujours rêvé de faire l'école buissonnière, puis d'être capable de s'en sortir comme Ferris le faisait. Puis, ben c'est ça. Mais c'est souvenir. Ton tour, Danny. Je t'écoute. Hein, 86, t'es sûr?
Ben oui.
Ok, donc, je te... Ok, c'est correct.
Top Gun. Réalisé par qui, là?
Top Gun, c'est Tony Scott.
Classique.
Tom Cruise qui commençait à être une superstar. Moi, je Top Gun, je pense qu'il a solidifié sa... son végétariat, là. Ok.
E.T.
j'ai, honnêtement, j'ai jonglé longtemps avant de le mettre. Parce que on parlait de nostalgie, t'sais, de trip. E.T. m'a marqué. Mais finalement, je les ai tombés. Ça, c'est un des films qui a eu le plus d'attente entre le cinéma et le VHS. Je me rappelle, ça a été long.
Ah oui.
Ça a été long avant de l'avoir en VHS. Puis il y a eu un engouement, évidemment, à cause de l'attente. Là. Là, tu voyais ça dans un Sears, puis dans un centre d'achat, dans un Labé, puis E.T. s'en vient, E.T. s'en vient, en VHS, comprends-tu? Puis
E.T. arrive à la maison.
Ouais, E.T., c'est ça, oui, E.T. Comme home. Là. Hey, Colin.
Les Police Academy.
Les Police Academy, hey, Colin.
Parce qu'il y en a eu 7 à peu près.
Au moins. Ouais, le dernier de que j'ai en tête, c'est Police Academy à Moscou.
Exact. Je les ai toutes vues.
Ouais, moi aussi, c'est sûr. Steve Guttenberg a commencé là.
Mais ça a marqué les années 80, on peut pas.
Non, c'est ça. C'est ça.
Dis,
c'est ça. Académie de police, le numéro 1. Mais ben, je l'ai chez nous, c'est pas drôle. Ouais. C'était assez sexué aussi, ça aussi. c'était fun. Première, en tout cas. La deuxième était moins bon déjà. Là.
Ouais.
On s'est éloigné un petit peu. C'est trop caricatural. Le premier était moins caricatural, même qu'il était un petit peu quand même. Mais le deuxième, c'était trop. C'est avec Bobcat Goldthwait là, qui jouait le méchant là, punk, là, puis qui... qui parle de même.
Tu l'as bien?
Ouais, j'ai pas dit un son. Là. Lui, il parlait. Là. Je suis pas capable de faire un mot avec ça. Là. Il parle de même! Il est frappable.
Il y a le noir qui fait ses bruits.
Ouais, ben lui, d'ailleurs, qui a fait une apparition dans Spaceballs, qui faisait le gars qui s'occupe du radar, justement. Il dit bip, des flip, des flip. Hein, du coup, il dit là. Des pip, ploup, ploup, des flip, des flip. Il n'y a pas juste ça qui est perdu, tu sais. C'est ça qui répond qu'à ce qu'on voit, tu sais. En tout cas. D'accord, là.
Ben, j'aime ça, parce que avec les tiens aussi, qu'on a nommé de plus, là, comme Ferris Bueller, Weird Science.
Weird Science, créature de rêve, quoi.
C'est ça, le cœur des années 80.
Ouais, les années 80, c'est du sang, du sexe et du rock'n'roll.
Ouais.
C'est ça.
Alors, évidemment, tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a le concours. Mm-hmm. Retour vers le passé.
Wouhou! Ça achève, là.
Où vous pourriez vous mériter un film de votre choix parmi vos...
Votre liste que vous allez nous envoyer.
C'est ça.
Il reste maintenant juste la période années 70. Fait que vous allez avoir une chance de gagner ce que Daniel a nommé, le film de votre choix.
Un film de votre choix dans votre top 10.
La trilogie.
La trilogie Back to the Future.
Woohoo!
Et la DeLorean en modèle réduit à l'échelle 1/15.
Qui est magnifique, que c'est l'enfer.
Avec effet de son et lumière, gracieuseté de cinéma passion.
Et le DVD, c'est gracieuseté de Cinécure.
Alors, continuez de participer.
Cinémascope@commercialdetail.net pour nous envoyer vos réponses.
Continuez de nous écouter parce que là, on s'enligne vers la centième.
Ah oui, on approche là, ça va être toute qu'une émission.
Ouais.
Une émission du tonnerre.
Fait que, allez-y, travaillez fort pour votre décennie 70.
Oui.
Car ce sera le début de la fin.
Fait que, bon courage, là. Lâchez pas, les gars. Allez, copains. Salut.
Et nous nous reverrons vers le passé.
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.deltar.net.